France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Une année peut-elle représenter à elle seule un point de bascule, initier un retour vers le passé? Il y a deux siècles, presque jour pour jour, le 26 février 1815, Napoléon quittait l'île d'Elbe et son exil pour se lancer à la reconquête de la France et de Paris. Un ultime soubresaut de l'Empire, alors que les monarchies européennes réunies depuis plusieurs mois à Vienne veulent en finir avec l'empereur et apporter de la stabilité au vieux continent, marqué par la Révolution française et les décennies de guerre qui l'ont suivi. En restaurant l'ancien régime, le Congrès de Vienne cherche aussi à stopper l'onde de choc de la Révolution, ses idées, ses violences. Mais pourtant, la restauration ne signifie pas un retour en arrière qui semble de toute façon impossible. Alors le Congrès de Vienne a-t-il réussi à rétablir l'ancien régime et à mettre ainsi à un terme l'ère des révolutions? Un invité ce soir pour nous éclairer et nous guider dans cette année 1815, Clément Thibault, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'histoire de l'Amérique latine à l'École des hautes études en sciences sociales. Votre livre vient de paraître aux presses universitaires de France. Il s'intitule « 1815, fin de l'âge des révolutions ». Point d'interrogation. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir. Et une question toute simple, Clément Thibault, pour commencer. Dans le nombre incalculable de choix que vous aviez pour année, pourquoi avoir choisi 1815 ?
Alors l'année 1815 me paraissait vraiment très importante parce que à cette date est attachée toute une mémoire en fait. C'est-à-dire c'est une date un petit peu funeste dans l'histoire de France. C'est une date mal aimée et c'est aussi pourquoi elle a été peut-être un peu moins étudiée et c'est pourquoi aussi peut-être on en parle un petit peu moins. 1815 c'est quoi? C'est le retour des Bourbons. C'est évidemment le Congrès de Vienne. C'est la Restauration. C'est la volonté d'un retour à l'ancien régime. Et donc c'est une date un petit peu funèbre. Disons dans la mémoire collective. Et voilà, et pour ma grand-mère qui était d'Ajaccio, c'est la chute de Napoléon, donc une catastrophe absolue.
Je voudrais également vous demander, en lien avec cette année, ce que vous démontrez par ailleurs en fil rouge dans cet ouvrage, 1815, fin de l'âge des révolutions, point d'interrogation, c'est que cette année et ses ramifications dans le temps jusqu'au mi-temps du 19e siècle démontrent peut-être que en histoire, un retour vers le passé est impossible.
Oui, absolument. Ce que j'ai voulu montrer, c'était non pas relativiser la contre-révolution, mais montrer que la contre-révolution faisait partie d'une certaine façon de la modernité politique. Et dans le livre, il y a toute une partie sur les œuvres de Joseph de Maistre et de Louis de Bonald, en essayant de montrer en quoi finalement...
Deux grands contre-révolutionnaires
qui, malgré eux, d'une certaine façon, sont des novateurs. Parce que en critiquant l'abstraction révolutionnaire ou ce qu'ils considèrent être le caractère vide du contrat social, qui met en contrepoint d'un côté l'État ou la nation et d'autre le citoyen, ils disent entre les deux, il y a tout ce qui compte, c'est-à-dire la société, et c'est cette société qui vient de la tradition, qui s'est sédimentée à travers les âges, qui est fondée sur les vérités de la religion, c'est ça qu'on doit d'une certaine façon rétablir. Et en faisant ce geste, d'une certaine façon, ils inventent une nouvelle science qui est la science de la société, la science sociale. Donc, alors, je les aime pas particulièrement et je partage pas leur point de vue idéologique, évidemment, mais 1815, pour moi, c'est un petit peu ça. C'est une sorte de synthèse, de compromis entre révolution et contre-révolution. Un point d'observateur extrêmement intéressant sur une période post-révolutionnaire et sur tout le 19e siècle et notre modernité, en essayant de montrer que d'un côté, il y a un certain nombre d'éléments qui annoncent notre modernité vraiment très contemporaine. Et 1815, pour les historiens, c'est la date qui ouvre l'époque contemporaine. Les archives, elles sont séparées entre l'ancien régime qui s'arrête en 1815 et qui sont dans le Marais et à Pierrefitte après 1815. Mais aussi, à la fois, c'est un monde qui est très traditionnel, entre guillemets. Et un monde qui est d'une certaine façon assez plat, c'est-à-dire que l'Europe n'a pas de particularité par rapport au reste du monde.
Alors, immergeons-nous, grâce à vous, Clément Thibault, dans cette année 1815, et grâce à une archive exceptionnelle dénichée par l'équipe de Questions du Soir, un extrait du film « Le Congrès s'amuse » dans sa version de 1966.
Je vous dérange, serais-je de trop ?
La Pologne est territoire russe.
Laisser la Saxe subsister en tant que royaume indépendant, c'est purement et simplement mettre auprès de la Prusse un voisin des plus menaçants.
Il suffit de regarder sa situation géographique.
Monsieur de Metternich, je crois qu'il serait bon d'être d'accord sur un ordre du jour.
La Pologne est territoire russe. La Pologne est territoire russe.
Majesté, il ne s'agit nullement de morceler la pauvre Europe une nouvelle fois. Il s'agit bien au contraire de l'unifier.
C'était l'ambition de notre ennemi commun. Napoléon.
Il voulait imposer une Europe française par la guerre. Nous voulons une Europe unifiée dans la paix.
L'amour désunit, mais la haine réunit. Je vous proposerai donc de continuer à nous haïr et à rester unis.
Rappelez-nous, Clément Thibault, en deux mots, le congrès de Vienne, de quoi s'agit-il ?
Il s'agit de réorganiser l'Europe autour du principe de légitimité et de constituer une sorte de directoire de puissance qui vont veiller à ce que les soulèvements libéraux, constitutionnels, éventuellement républicains, ne se reproduisent pas. Il s'agit de mettre fin à la révolution et d'une certaine façon de rêver à une sorte de retour en arrière qui effacerait totalement ce qui est considéré comme vraiment une période absolument atroce.
C'est cela, dans l'imaginaire collectif, le congrès de Vienne, ce sont les monarques européens qui s'unissent au fond pour mettre un terme et à la révolution et à sa continuation en France à travers le bonapartisme. Est-ce qu'ils arrivent, est-ce qu'ils parviennent à renouer la chaîne des temps, pour reprendre l'expression de la charte de 1815?
Bon, c'est là que la question fin de l'âge des révolutions est un peu rhétorique, évidemment. Pour quelqu'un qui n'est pas un spécialiste de l'Europe, qui travaille sur l'Amérique latine, évidemment, si on opère un triple déplacement, c'est pas du tout la fin de l'âge des révolutions, au contraire. Et le directoire qui se met en place entre la Prusse, l'Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne, bientôt accompagnée de la France, pour veiller par le système des congrès à ce que les soulèvements des peuples ne se reproduisent pas, évidemment, va être un échec total.
Triple déplacement, vous avez dit.
Alors, premier déplacement, c'est un déplacement chronologique. Si on prend au sérieux l'âge des révolutions comme chrononyme, en fait, 1815 est au milieu d'une longue séquence révolutionnaire qui commence par la Révolution américaine, se continue par la Révolution française, l'indépendance d'Haïti en 1804, et ensuite les indépendances hispano-américaines et du Brésil, qui sont aussi des révolutions. Donc, d'une certaine façon, la révolution, les révoltes qui quittent l'Europe vont se basculer vers les Amériques. Et même dans le continent américain, ce qu'on oublie peut-être un petit peu trop en France, c'est que toute l'Europe du Sud va s'embraser bientôt. Et le système des congrès va être va jouer son rôle, va réussir à étouffer une partie de ces mouvements. Le Portugal, une révolution constitutionnelle en 1820, l'Espagne, l'Italie, l'indépendance de la Grèce. Donc c'est pas du tout la fin de l'âge des révolutions.
Deuxième déplacement.
Alors c'est un déplacement aussi géographique. La question que je voulais poser, c'est précisément de remettre en cause cette idée de la modernité politique qui se structure autour de trois grandes idées. L'idée de l'individu porteur de droit, le citoyen, l'idée d'une sécularisation de l'ordre politique et l'idée, disons, d'un gouvernement rationnel qui remplacerait le gouvernement traditionnel. Et si on utilise, disons, ces catégories, l'âge des révolutions, elle est d'une certaine façon provinciale. Elle se limite à une géographie qui serait l'Europe et les Amériques, parce que ces critères fonctionnent plus ou moins, d'ailleurs pas très bien en Amérique latine. Mais que se passe-t-il si on pose l'hypothèse d'élargir cet âge des révolutions à d'autres espaces mondiaux qui sont peu ou pas connectés avec les espaces impériaux européens, comme l'Afrique de l'Ouest, comme la Chine? Voilà, c'est un petit peu le jeu et la question que j'ai posée, qui me semble vraiment intéressante parce que elle permet justement à la fois d'élargir la focale et de comprendre que le monde ne se limite pas, ou la modernité politique ne se limite pas à un espace euro-américain, mais qu'en prenant en compte par exemple la révolte du Lotus Blanc en Chine, qui est contemporaine de la Révolution française, et la construction d'empires et d'États réformateurs musulmans, qui sont des nouveautés absolues en Afrique de l'Ouest, on peut d'une certaine façon, en comprenant leur aspect religieux, réévaluer ou comprendre à nouveau frais les révolutions occidentales.
Et une question très surprenante, très travaillée, votre troisième déplacement?
Eh ben, je viens de le dire, c'est justement le déplacement notionnel, c'est-à-dire essayer...
Pas uniquement géographique,
la,
donc.
La comparaison, je m'essaie à une histoire connectée et à une histoire comparée aussi, en comparant des mouvements de révolte et des révolutions qui sont très, très éloignés, en essayant justement de réfléchir sur ces critères de comparaison. Et en réfléchissant sur ces critères de comparaison, c'est une réflexion aussi autour du grand récit qui organise en grande partie la lecture du 19e siècle, qui est l'essor de l'Ouest grâce à la modernité politique et la modernité industrielle et l'occidentalisation du reste. Alors, donc, c'est l'idée de la Pax Britannica, en fait, que j'essaie aussi de remettre en question. Pas seulement l'idée de contre-révolution.
Alors justement, Clément Thibault, tentons d'avancer dans cette année 1815, espace par espace. Si l'on commence par l'Europe méridionale et par l'Italie en particulier, comment justement cette idée contre-révolutionnaire est peut-être parfois arrêtée, stoppée? Comment là aussi une résistance au travail, à l'œuvre de Napoléon, vient transformer la modernité politique?
Alors, ce qui me semble intéressant dans les soulèvements constitutionnels du Piémont, Naples et la Sicile, en 1821 notamment, c'est précisément qu'elles ne correspondent pas vraiment au modèle révolutionnaire français. Mmh. Autour de ces trois notions que je vous ai expliquées, elles ont de très forts aspects communautaires. La religion est un véhicule, justement, de la révolte et un répertoire extrêmement important. Ils n'imaginent pas du tout rompre avec la religion catholique, au contraire. Et puis, il y a tout un répertoire moral aussi de réforme des mœurs qui est important et qu'on va trouver dans d'autres espaces qui sont plus éloignés. Et donc, d'une certaine façon, ça permet aussi de réfléchir à ces éléments qu'on a peut-être un peu trop sous-estimés dans, en France, en Europe en général et dans d'autres espaces.
Je voudrais vous faire entendre la voix d'un écrivain cubain, Alejo Carpentier. Il évoque justement les correspondances qui existent entre l'Amérique du Sud et cette Europe que vous décrivez.
Ce qui plaît dans Voltaire, c'est tout ce qu'il a pu apporter comme idées qui ont pu aider à nos guerres d'indépendance. Car il ne faut pas oublier que les guerres d'indépendance de l'Amérique, qui ont été l'événement historique le plus important de la fin du 18e, commencement du 19e siècle, puisqu'il y a des précurseurs déjà à la fin du 18e, tous ces mouvements qui se produisent en chaîne entre 1809 et 1824 à peu près, ont leur origine dans la pensée des encyclopédistes français et dans la pensée des philosophes du siècle qu'on a appelé le siècle des Lumières. Certains inventaires de bibliothèques qu'on a fait en Amérique du Sud prouvent que bien que la circulation de l'encyclopédie, la grande encyclopédie française, était interdite, on en a trouvé des quantités d'exemplaires à Buenos Aires et dans différentes villes de l'Amérique du Sud. Alors Voltaire fait partie, avec Rousseau, de ces auteurs qui, à notre avis, ont préparé l'avènement de l'indépendance des pays d'Amérique du Sud.
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, Clément Thibault? Il y a une préparation intellectuelle qui se fait en Europe de ces révolutions qu'on observe outre-Atlantique?
Alors, je suis absolument pas d'accord avec
cette
interprétation.
Alors, tant mieux, ça va permettre un peu de débat.
Oui, oui. Non, je pense pas que, et je ne pense pas avec d'autres, que les révolutions hispano-américaines, notamment, soient le reflet ou un contre-coup de l'influence de l'encyclopédisme français. Par contre, elles s'insèrent dans une séquence d'événements et de révolutions qui sont liées à la France, notamment à la grande révolte des esclaves de Saint-Domingue, aux anti-révolutionnaires, avec des circulations de textes, de personnes, de prisonniers qui vont effectivement rendre visible sur les côtes hispano-américaines un autre futur possible. Et donc ça informe évidemment ce qui va se passer par la suite. Mais le grand coup, d'une certaine façon, c'est l'invasion napoléonienne de la péninsule ibérique qui va révolutionner l'Empire espagnol. Et une des idées que je voulais développer précisément, c'est que un des foyers de cette modernité politique, ce sont ces révolutions impériales, donc des révolutions qui ne se concentrent pas sur l'espace européen ou sur les États-Unis, mais qui engagent vraiment une dimension globale. Et ces révolutions impériales sont intéressantes parce qu'elles permettent de penser ces nouvelles valeurs, notamment la question de la citoyenneté, en dehors du foyer traditionnel de Paris, Londres, Philadelphie, en montrant que des espaces comme le Brésil, des espaces comme la Colombie, la Nouvelle-Espagne, participent dès l'origine, précisément, à la construction de cette modernité. Mais une modernité qui est aussi extrêmement complexe, parce qu'il ne s'agit pas à cette époque de parler de démocratie, Dans l'année 1815, il y a cette idée aussi que se mêlent révolution et contre-révolution. Les révolutionnaires rêvent d'une révolution plutôt modérée, évitant les excès de Robespierre, de la plèbe, de la population parisienne, de la guillotine. Ce sont des images qui sont vraiment, qui ont une circulation extrêmement forte. Et donc, il y a des éléments extrêmement conservateurs, y compris chez les libéraux, sans compter la préservation de l'esclavage. Donc, c'est pour moi un moment extrêmement important qui fait coexister des contraires et qui crée des tensions absolument énormes.
Et parmi ces contraires, vous écrivez ceci: dans l'ensemble des États américains indépendants, à l'exception d'Haïti, c'est en réalité l'ancienne aristocratie terrienne d'origine européenne qui s'empare du pouvoir. C'est cela aussi la réalité concrète au début du 19e siècle.
Oui, absolument. Donc, chez beaucoup de libéraux, notamment en Amérique latine, vous avez de grandes dissertations sur la liberté politique, sur la fin de l'esclavage politique. Mais en réalité, c'est en grande partie un ordre très hiérarchisé, avec beaucoup de travail contraint et l'esclavage qui continue. Et même dans certains espaces, comme le sud des États-Unis, c'est bien connu, Cuba et le Brésil, vous avez une sorte de modernité esclavagiste qui se met en place, qui va associer le mode de production esclavagiste, on va dire traditionnel, avec les usines sucrières à vapeur. Donc l'esclavage, qui est vu par un certain nombre de libéraux, d'abolitionnistes, comme une forme de travail archaïque, se renouvelle complètement. Mais de l'autre côté, vous avez des cercles abolitionnistes qui travaillent au monde post-esclavagiste, qui imaginent une influence notamment de la civilisation européenne dans le monde à travers une critique de la conquête coloniale, une critique de l'esclavage, une critique du mercantilisme aussi. Et ça va donner lieu à ce qu'on peut appeler la colonisation de peuplement. Et cette colonisation de peuplement, c'est la colonisation de l'Ouest américain, c'est la colonisation de la Pampa argentine, des dominions britanniques en Australasie.
Justement, à ce sujet précis, Clément Thibault, expliquez-nous en quoi cette année 1815 marque également une bascule, une rupture peut-être aussi conceptuelle dans le rapport que les Européens entretiennent avec la colonisation. Au fond, 1815, on passe peut-être d'un mode de colonisation à un autre.
Alors, je dirais qu'il y a plutôt coexistence entre les deux. C'est-à-dire que les indépendances américaines, des États-Unis jusqu'au Brésil, font dire à un certain nombre de progressistes de l'époque que l'ère des empires modernes est révolue et qu'il faut donc complètement renouveler la façon dont les Européens, ont des contacts avec le reste du monde. Donc il y a cette triple critique de l'esclavage, du mercantilisme, mais aussi de la conquête. Et ça va produire, disons, des formes nouvelles qu'on appelle dans l'historiographie britannique l'empire libéral. Dans le cadre français, c'est plutôt la nouvelle colonisation. Et cette nouvelle colonisation, en fait, elle donne lieu à une sorte de nouvelle forme d'impérialisme avec la politique de la canonnière. La France va envoyer notamment des canonnières à Buenos Aires pour signer des traités de commerce. Donc, si vous voulez, cette période qui est souvent présentée comme un moment de paix sous le signe du libre-échange, c'est l'idée de la Pax Britannica qui commencera en 1815 et qui finirait avec la Première Guerre mondiale, elle est très très largement à nuancer. Vous avez à la fois le maintien, l'extension des empires, et vous avez de nouveaux répertoires, comme celui de la politique de la canonnière, et puis vous avez aussi, toute cette politique de colonisation territoriale qui va nuire énormément aux peuples autochtones. Mais j'essaie de montrer dans le livre aussi qu'il ne faut pas lire l'histoire d'une postérieure uniquement avec cette clé de lecture-là, que vous avez des souverainetés autochtones ou des souverainetés indigènes qui sont extrêmement solides, qui sont capables de résister à l'avancée des pionniers et des colons, comme l'Empire Comanche, qui n'était d'ailleurs ni un empire ni vraiment Comanche, mais dans le sud-ouest des États-Unis ou dans le sud Patagonie, au sud de du Rio de la Plata. Et donc, j'ai voulu aussi pluraliser, faire une histoire politique avec des empires, mais aussi des souverainetés autochtones, qui relativisent un petit peu aussi le récit de la croissance de l'État-nation.
Dans le même temps, Clément Thibault, comment cette année 1815 et ce prisme que vous portez à travers le livre permettent-ils de mieux comprendre l'essor économique de l'Ouest, l'essor économique de l'Occident ?
Alors, je discute cette grande thèse de la grande divergence, en fait, qu'un historien américain qui s'appelle Kenneth Pomerantz a produite il y a quelques années, et qui montre, en comparant le Baiyangzi et l'Angleterre, donc deux régions d'une certaine façon, que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle ou jusqu'au début du XIXe siècle, en fait plutôt l'année 1820, eh ben il y a une sorte de voilà, la richesse est relativement également répartie dans ces différents territoires, la richesse par habitant est comparable, et qu'à partir de cette époque-là, 1820, on va dire qu'il y a un décollage de l'Atlantique Nord, États-Unis, Europe de l'Ouest surtout, qui va expliquer une grande partie de la suite, c'est-à-dire l'histoire coloniale, la conquête, les deux grands empires français et britannique au XIXe siècle, et puis cette différence de richesse qui va créer, disons, le tiers-monde. Donc c'est une date, c'est un moment extrêmement important, que j'essaie de discuter justement en reprenant un peu ces thèses, en nuançant l'idée d'une révolution industrielle et en montrant que rien n'a été écrit.
Je voudrais vous faire entendre l'extrait d'un documentaire Arte intitulé « Le fabuleux destin des inventions » qui permet justement de rappeler quelle était l'origine de cette Angleterre industrielle.
À cette époque, le coton afflue en Grande-Bretagne. Pour profiter de cette manne, on veut mécaniser les métiers à tisser automatiques et les machines à filer. Il suffirait pour cela que la machine à vapeur produise un mouvement rotatif, par exemple grâce à une bielle manivelle. Mais ce système est protégé par un brevet, et Watt refuse de payer des droits de licence. Il imagine alors l'engrenage dit « satellite et planétaire ». Une roue dentée, ou satellite, accomplit une révolution complète autour d'une autre roue, le planétaire, et entraîne un arbre, développant un mouvement rotatif régulier et puissant. Cette invention révolutionne le secteur des filatures et des ateliers de tissage. À Birmingham, les commandes de machines à vapeur affluent.
Une distinction un peu classique que l'on opère parfois, Clément Thibault, c'est l'idée selon laquelle la France serait chargée de la révolution politique, la révolution des droits et de la citoyenneté d'un côté. La Grande-Bretagne, elle se serait chargée de la révolution économique. Là aussi, comment interroger cette distinction ?
Alors, pour la révolution politique, j'ai déjà un peu répondu en montrant précisément qu'il fallait pluraliser cette vision, la rendre un peu plus polycentrique et montrer qu'il y a, voilà, que la France révolutionnaire, elle garde une place évidemment extrêmement centrale et très importante, mais qu'il y a d'autres formes de révolution et d'autres types de liberté politique à cette époque-là.
Pour la
Grande-Bretagne, l'extrait que vous avez passé reproduit, disons, une vision un petit peu, peut-être un peu stéréotypée de la révolution industrielle comme une sorte de rupture nette entre un avant et un après, fondée justement sur la mécanisation.
Et à travers une grande invention.
Et à travers les grandes inventions, en fait, l'histoire économique, elle montre que c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, que ça a été évidemment beaucoup plus progressif, que les formes d'énergie, notamment éoliennes, hydrauliques ou animales, sont restées très importantes dans la deuxième moitié du 19e siècle, et que cette révolution industrielle a été beaucoup plus progressive. Pour revenir à Pomerantz, ça pose quand même la question de savoir pourquoi, finalement, vous avez ce petit cap européen et les États-Unis qui se sont énormément enrichis, alors que le reste du monde a stagné ou accru très très lentement. Et il y a deux causes qui sont mises en évidence par Pomerantz qui me paraissent intéressantes. Le premier, c'est que la Grande-Bretagne et l'Ouest européen continuaient à avoir des colonies et pouvaient bénéficier justement des apports en nourriture, en coton, des colonies ou d'anciennes colonies comme les États-Unis qui exportaient, contrairement à la Chine qui n'avait pas ses ressources. Puis la deuxième explication, c'est la proximité du charbon. Alors évidemment, on peut discuter,
La proximité physique, géographique.
Physique, géographique du charbon. La proximité physique, géographique du charbon, elle est vraiment intéressante parce que contrairement à l'énergie hydraulique ou l'énergie éolienne, elle permet de rapprocher la main-d'œuvre des fabriques, ou rapprocher plus précisément les fabriques de la main-d'œuvre. Et donc de construire de grandes fabriques dans les grandes cités populeuses où la main-d'œuvre est abondante, alors qu'évidemment, quand vous avez un moulin à eau, c'est difficile de le déplacer. Donc il y a un certain nombre de facteurs qui explique effectivement cette divergence, cet enrichissement. Mais il y a aussi beaucoup d'autres facteurs qui montrent que, d'une certaine façon, l'Europe, à cette époque-là, est une ère culturelle, une région comme une autre. Les modes de production traditionnels, artisanales, de paysans qui vont tisser l'hiver, ça reste vraiment extrêmement important. Même en Angleterre, pendant beaucoup de temps, l'énergie hydraulique est très importante en Allemagne pendant très longtemps. Donc, il y a beaucoup d'arguments pour montrer qu'on reste aussi dans un monde qui est relativement plat de ce point de vue-là, du point économique.
Merci beaucoup, Clément Thibault, professeur d'histoire de l'Amérique latine à l'École des hautes études en sciences sociales. Je redonne le titre de votre ouvrage, 1815, fin de l'âge des révolutions, point d'interrogation, qui vient de paraître au PUF, aux presses universitaires de France. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission, Bertie Bourdon, Bruno Barada, Rodi Eken, à la réalisation, François Richard.